Avis critique.
Raphaël Bourgois. Les idées au banc d'essai, Avis critique explore toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux livres qui se penchent sur le rôle des histoires en politique. Des histoires d'incarnation d'abord, de chef en démocratie dont le politiste Vincent Martini décortique les mécanismes passés et contemporains. Le Retour du Prince, publié chez Flammarion, est une réflexion machiavélienne, évidemment, sur ce drôle de paradoxe. Alors que les citoyens n'ont jamais autant demandé de participation démocratique, les hommes forts ont le vent en poupe. Et le pouvoir s'incarne dans des figures de plus en plus proches de la fiction. Des histoires de chiens, ensuite, dans le manifeste des espèces compagnes, de la philosophe et biologiste américaine Donna Haraway, publiée aux éditions Climat. Son pari audacieux, prendre notre relation avec les chiens au sérieux pour développer une éthique et une politique sur fond d'histoires d'amour, de pouvoir, de conflits raciaux et d'idéologie coloniale. Et en studio pour débattre, Laurent Hêtre de l'Humanité. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Et Thibaut Sardier de Libération. Bonsoir Thibaut.
Bonsoir.
Alors je vous propose de commencer par le livre de Vincent Martini, Le Retour du Prince, sorti donc chez Flammarion. Vincent Martini est maître de conférences en sciences politiques à l'école polytechnique, chercheur associé au CEVIPOF, à Sciences Po Paris. Donc ses recherches portent notamment sur les manifestations contemporaines du nationalisme français, les débats relatifs à l'identité nationale et les usages politiques de la culture. Il avait à ce sujet publié en 2016 aux presses de Sciences Po, Dire la France, culture et identité nationale, signalant enfin qu'il a produit sur France Culture pendant plusieurs années l'atelier du pouvoir. La question que pose ce nouvel essai est assez simple, hein. Comment comprendre que les mêmes citoyens qui demandent une plus grande participation démocratique, qui demandent le réforme d'initiative citoyenne, sont enclins à porter au pouvoir des hommes, plus rarement des femmes, qui incarnent une figure politique qu'on pensait sinon évanouie, du moins affaiblie, celle du prince. Par prince, Martini entend des dirigeants forts, bien entendu, mais surtout des leaders dans lesquels s'incarne le pouvoir. Une incarnation qui n'est pas nouvelle en politique, loin de là. Résultat, si on regarde juste notre époque contemporaine, de l'individualisation des sociétés, de la montée en puissance du pouvoir exécutif, mais aussi, et c'est l'un des apports de ce livre, d'une évolution des relations entre le réel et le récit. Dépolitisation des citoyens, storytelling en continu, critique des médias, vitrification de l'opposition, abolition des contre-pouvoirs, affranchissement du réel, tous ces événements sont analysés comme phénomènes médiatiques. Les séries ont remplacé le théâtre dans l'imaginaire politique et ça a des conséquences, mais au final, ce désir d'avoir des chefs et le recul démocratique qu'ils génèrent aident la responsabilité des citoyens. Laurent Hêtre, c'est un livre qui nous mène de Machiavel à House of Cards.
Oui, effectivement. Alors, c'est un essai que j'ai trouvé tout à fait passionnant et percutant. En fait, vous l'avez dit, Raphaël, Vincent Martini, finalement, nous invite à nous pencher sur un paradoxe de notre époque, à savoir que, d'un côté, on observe une montée en puissance de l'exigence démocratique, hein, sur fond de culture, de l'horizontalité, en lien avec les réseaux sociaux, avec le numérique. Et dans le même temps, effectivement, on assiste à une exacerbation de la fascination pour les chefs. Et alors, ça s'exprime dans de larges secteurs de la société, mais ça, c'est un point sur lequel on reviendra sans doute dans la discussion. Les chefs dont nous parle Vincent Martini se répandent sur un spectre politique qui va de la démocratie libérale au populisme autoritaire. En tout cas, face à ça, Vincent Martini, lui, son propos est très clair. Il nous invite effectivement à réinvestir les pratiques démocratiques, à les développer et donc à nous désintoxiquer de notre addiction plus ou moins marquée pour les chefs. Et pour lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord réactiver le geste machiavélien, c'est-à-dire analyser les ressorts du pouvoir tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est exercé par les chefs contemporains. Parce que, au fond, ce travail de décryptage des ressorts du pouvoir, c'est la condition pour ensuite s'affranchir des pratiques tyranniques. Alors, quels sont les mécanismes des princes contemporains? Quelles sont les caractéristiques de leur pouvoir? Le premier point qui est soulevé par Vincent Martini, c'est sur le caractère fulgurant des ascensions. Alors, effectivement, ça vaut aussi bien pour Trump aux États-Unis que pour Emmanuel Macron en France ou pour Justin Trudeau le Premier ministre canadien, pour ne citer que. Alors, le caractère fulgurant de l'ascension, et puis surtout la starification croissante de l'exercice du pouvoir, avec une mise en avant de soi sur les réseaux sociaux, avec un recours parfaitement assumé à tout le spectre des émotions.
Hein, il prend, c'est ce qu'il appelle le kitsch du pouvoir.
Voilà, et alors il prend beaucoup d'exemples assez cocasses. Par exemple, Justin Trudeau, qui effectivement se met en scène sur les réseaux dans des vidéos en train de rire, de danser, de pleurer, ou en visite aux zoos à Montréal. Bon, c'est le genre d'exemple qui ponctue l'analyse. Mais ce qui est intéressant sur le rapport aux réseaux sociaux, moi pour moi c'est ce point surtout qui m'a interpellé, c'est que Vincent Martini au fond rompt avec quand même toute une vision facile qui veut que les réseaux sociaux soient des outils spontanément dévolus à l'exercice démocratique. Ils peuvent l'être, mais spontanément ça va plutôt dans le sens opposé. En tout cas pour citer Vincent Martini, il le dit, hein, la démocratie promue sur les réseaux sociaux est moins une prise en compte du désir citoyen qu'une démultiplication de la puissance de projection des leaders. Et alors effectivement, on pense, Vincent Martini l'évoque, au tweet intempestif de Donald Trump notamment, mais il va plus loin, Vincent Martini, parce que il pointe l'abolition des frontières de l'intime et du public, notamment avec la pratique des selfies. Et il nous invite à réfléchir sur le fait que cette pseudo-abolition, elle n'abolit en rien l'écart croissant entre les dirigeants et le quotidien de la masse. En fait, cette abolition mise en scène, elle ne fait que donner l'illusion, comme il dit, de toucher le prince. Et donc c'est bien toujours une illusion. Et enfin, dernier point soulevé par Vincent Martini, c'est sur le rapport à la vérité, le rapport des dirigeants à la vérité. C'est-à-dire que au moment même où ils parlent, où ils prétendent de plus en plus parler vrai, ils assènent des mensonges, des contre-vérités. Contre-vérités, alors par exemple, il évoque, Vincent Martini, dans le discours politique, ça revient assez souvent, le fait de dire en gros, avoir beaucoup de diplômes va vous protéger du chômage et va vous permettre d'avoir forcément un poste en correspondance avec votre niveau d'études. Voilà, c'est le genre de contre-vérité. Et ça m'a rappelé le livre d'Arnaud Esquerré qu'on a ici même évoqué, Raphaël, le vertige des faits alternatifs, où Arnaud Esquerré évoque effectivement lui aussi ce rapport plus distancé des politiques à la vérité. Et en parlant de Trump, il souligne que le candidat Trump, hein, donc dès la campagne présidentielle américaine, cherchait finalement non pas la vérité, mais le scénario le plus efficace, le scénario qui permette de rassembler le plus de spectateurs possible autour de sa personne.
Et c'est là qu'on arrive à House of Cards, évidemment. Laurette, merci pour cette présentation très très complète du livre de Vincent Martini, Le Retour du Prince. Vous avez cité Arnaud Esquerré, Thibaut Sardi est venu avec le livre de Myriam Revaud-Allonne sur la vérité, qui est aussi cité par Vincent Martini. Peut-être un mot, juste Thibaut, sur le projet du Politiste, c'est-à-dire s'intéresser à cette exigence de démocratie, voir l'émergence des chefs, l'émergence rapide, et encore une fois, il faudra faire un sort à cette façon de rapprocher Orban de Macron, Trump, d'autres leaders comme Justin Trudeau. Bref, un mot quand même sur cet enjeu de la démocratie et de voir l'incarnation comme un recul démocratique par la critique de la représentation. C'est quelque chose qui est assez présent dans le livre de Vincent Martini.
Oui, absolument. Et dès le début, puisque dans le diagnostic qu'il fait de la situation, donc on l'a déjà dit, hein, il évoque en fait deux grandes évolutions qu'on a déjà mentionnées. Les grands enjeux politiques du moment devenus inintelligibles pour le citoyen, en même temps une demande de compréhension citoyenne accrue. Et troisième élément, nous dit Vincent Martini au début du livre, ce qu'il appelle la culturalisation de la politique. C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir collectivement aux enjeux politiques, de l'action des politiques concrètes à mener pour le collectif, on s'en tient à des éléments culturels qui passent par exemple par l'image, la mise en scène, l'utilisation des symboles surannés. Il évoque par exemple la scène d'Emmanuel Macron juste élu qui pendant plusieurs minutes marche le long des pyramides du Louvre. Donc tout ça finalement fait que l'art de la politique, ce qu'il appelle la politique, l'emporte sur l'action, l'équilibre, le développement de nos sociétés, ce qu'il appelle le politikos. Et c'est là aussi que s'embraye la réflexion autour de Machiavel, hein, qui a donné le titre à l'ouvrage, puisque son analyse de Machiavel, c'est qu'on a perdu, le prince a perdu son pouvoir d'action, et qu'à partir du moment où l'action n'est plus dans le spectre du politique ne reste que ces enjeux d'image. Effectivement, tout le spectre est parcouru, hein. On a déjà évoqué un certain nombre de noms. Justin Trudeau sur une scène de boxe qui lance un peu sa carrière politique. Voilà, je le savais pas et c'est vrai que
qui est visible sur Internet. Hein, voilà. Si ça vous intéresse de voir le combat Thibaut Sardier.
Et cette façon donc de montrer que par une simple vidéo comme ça qui tourne, il s'impose comme un personnage politique assez rapidement.
Sachant que Justin Trudeau est le fils d'un premier ministre historique du Canada. Donc c'est vrai que c'est qui avait plutôt une réputation de noceur, on va dire, voilà, pas très 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 sérieux. Et c'est vrai que ce combat de boxe contre un Marines canadien représentant l'aile conservatrice de la politique au Canada, et le combat qu'il avait gagné contre toute attente, contre tous les pronostics des bookmakers, et ben ça avait lancé sa carrière politique.
C'est la vidéo, voilà, qui fait vriller du coup l'image de Justin Trudeau. Alors après, là peut-être là où il nuance un peu son discours sur le fait que l'image serait identique dans tout le spectre politique, c'est quand il évoque le parler faux. Là, il s'intéresse plus précisément à des dirigeants comme Bolsonaro et surtout Trump, quand il s'intéresse à sa langue. Donc il fait référence à Viktor Klemperer, l'auteur de la langue du Troisième Reich, pour insister sur le fait que la pauvreté, la monotonie et la violence des discours de Trump, pour le coup, l'inscrivent dans une certaine parenté avec cette langue du Troisième Reich. Et là, il m'a l'air d'être un peu plus spécifique, pour le coup, sur un spectre plutôt droitier. Et dernier point rapidement sur la question que vous me posiez sur la question de la morale, de la leçon politique à tirer pour aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est peut-être un peu la limite, enfin, ou l'une des limites de ce livre, c'est que dans les dernières pages, il évoque en effet la façon dont on pourrait s'affranchir de ces images, reconstruire un rapport différent aux politiques. Mais ça me semble un petit peu rapide, alors que avec les gilets jaunes, les revendications de référendum d'initiative populaire, voire si on remonte un peu plus loin, la séquence des printemps arabes ou des mouvements Occupy, Podemos, il y avait peut-être plus de choses à dire que ce qu'il développe dans les dernières pages du livre.
Oui, Laurent Attreux, parce que c'est vrai que cette question du pouvoir, de l'incarnation, du chef, elle n'a évidemment rien de nouvel, que ce soit dans nos démocraties contemporaines ou évidemment au temps des monarchies. Voilà, on se souvient du livre de Kantorowicz sur les deux corps du roi, avec cette incarnation de l'État, évidemment dans le corps du souverain. Machiavel, on l'a cité évidemment. Pourtant, Vincent Martini s'attache véritablement à décortiquer ce qui fait l'actualité, la contemporanéité de cette question. Et ça passe, comme je le disais au début, par la manipulation de ce que Christian Salmon a développé, voilà, sous le nom de storytelling. Alors récemment, il nous a expliqué qu'on était plutôt dans l'ère du clash que dans l'ère du storytelling. On en a parlé ici, mais c'est vrai que c'est central. Et ça amène Vincent Martini à étudier énormément, par exemple, les séries télévisées.
Oui, tout à fait. Il parle beaucoup de la série House of Cards, hein, donc qui charrie justement une vision très cynique de la politique, hein, à base de coups bas, de stratégies tournées vers la préservation d'intérêts particuliers.
Et de grandes violences aussi.
Voilà, de grandes violences. Effectivement, donc c'est son diagnostic. Il évoque également la façon dont le documentaire, hein, le champ du documentaire, représente aussi la politique. Hein. Il parle des coulisses du pouvoir de Yann Lénoré et de Macron président La fin de l'innocence de Bertrand Delay, qui avait effectivement fait couler pas mal d'encre lors de leur diffusion. Et effectivement, ce sont des documentaires où tout est centré sur la personne présidentielle, au détriment de la prise en compte des idées, au détriment de la discussion des idées qui sont sous-jacentes. Alors effectivement, ça a été dit, ce qui ressort finalement de l'ouvrage, c'est que la question des résultats et la volonté de transformer le réel sont évacuées de plus en plus aujourd'hui. Et je rejoins ce qu'a dit Thibault sur la fin de l'ouvrage, sur l'aspect un peu plus ouverture, pas forcément proposition, mais ouverture par rapport à aujourd'hui. Effectivement, l'ouvrage plaide assez logiquement pour une reprise en main par les citoyens de leurs compétences démocratiques, mais c'est vrai qu'on a quand même un goût, en tout cas j'ai eu moi un goût d'inachevé sur cet aspect, parce que en fait, pour Vincent Martini, l'horizon de cette réappropriation, c'est surtout, il le dit, un refus de rétrécissement de l'espace politique. Il faut refuser le rétrécissement de l'espace politique. Mais je me demande si aujourd'hui, alors il évoque hein, les indignés, place publique, etc., hein, tout le mouvement des places en fait. Hein, mais je me demande si aujourd'hui l'enjeu démocratique premier, c'est pas plutôt justement d'être un peu plus offensif et de se battre pour étendre le domaine du politique dans les lieux qui lui échappent trop souvent. Alors je pense évidemment notamment à tout ce qui touche aux luttes dans le monde du travail, au monde de l'entreprise, là où les richesses de la société sont produites. Comment combattre la fascination pour les chefs dans la société si, dans le même temps, les citoyens ne gagnent pas plus de pouvoir dans le champ du monde du travail? Moi, c'est un point qui m'a interpellé. Et du coup, Vincent Martini, lui, place ses pas dans ceux de Jacques Rancière, qui effectivement est un grand philosophe de la démocratie. Hein. Il évoque notamment l'ouvrage « La haine de la démocratie » de Jacques Rancière. Et Jacques Rancière plaide pour un travail de dévoilement des rapports de domination. Mais je me demande dans quelle mesure il ne faudrait pas aussi adjoindre à ce dévoilement des rapports de domination un travail de dévoilement des rapports d'exploitation et puis surtout de combat contre ces rapports d'exploitation.
Thibaut Sardi, sur cette question du rétrécissement du champ politique, il faut réouvrir. Il y a quelque chose d'un peu désespérant à la lecture du livre de Vincent Martini. C'est cette idée selon laquelle on est un peu condamné à l'incarnation, au renforcement du pouvoir individuel parce que le monde est devenu trop complexe. Il est impensable. Voilà, le débat se reporte donc sur des sujets comme l'identité, l'immigration, l'islam, le genre, qui sont plus faciles à appréhender, nous dit Vincent Martini, au détriment justement de la possibilité de se saisir de nouveaux sujets politiques. Laurent Etrembrecht se saisit un peu plus des questions qui touchent au travail, à l'entreprise. Il y a évidemment tout un tas d'autres sujets qui pourraient être cités. Qu'est-ce que vous en pensez? Et du rôle des médias aussi, qui est pointé du doigt par Vincent Martini. Ça vous paraît convaincant?
Alors, sur la fin, et pour continuer ce que disait Laurent, finalement, je trouve que l'une des limites aussi de la thèse, c'est d'insister sur la question de la responsabilité citoyenne. Toute la fin de l'essai invite les citoyens à s'investir dans les mouvements, à ne plus justement placer leurs espoirs dans de grandes figures incarnées médiatiquement, etc., etc. Il donne l'exemple de d'Ada Colau, la maire de Barcelone issue du mouvement Podemos, en nuançant justement son discours qui jusqu'à ce moment-là était assez monolithique sur l'incapacité des films documentaires à montrer autre chose que la figure du dirigeant. Là, il montre un documentaire dont le nom m'échappe, mais qui est centré sur les militants, sur les rapports entre les différentes instances du parti et cette figure d'Ada Colau, candidate puis élue. Mais finalement, du coup, voilà, c'est aux citoyens d'agir, c'est aux citoyens de se mobiliser. Or, parce que ce que vous disiez à l'instant, Raphaël, dans la question, c'est qu'il y a aussi des enjeux de compréhension de questions qui sont de plus en plus complexes, donc responsabilité des médias, responsabilité aussi quand même des politiques qui pourraient eux aussi réinvestir ces discours, on va dire, de fond, pour faire simple. Et ça, il en parle assez peu. Donc oui, effectivement, il est évident, et les Gilets jaunes en France l'ont montré, que par l'action citoyenne, par la mobilisation, on réinvestit le champ du politique, mais ça ne va peut-être pas que dans un seul sens. Pour revenir aussi à la question de la house of cardisation de la politique, il pointe deux risques, celui du désenchantement de la sphère politique, celui de la relativisation de la question morale en politique, comme si finalement la morale n'avait plus vraiment d'importance et que les citoyens eux-mêmes se disaient que finalement ce qui compte c'est la conquête du pouvoir et que tout cela est finalement bien normal. Moi, j'aurais attendu aussi que toute la réflexion qui est placée plutôt en début d'ouvrage sur Le Prince de Machiavel soit réinvestie à ce moment-là. Puisque s'il part au début de l'ouvrage de l'idée que l'action politique est oubliée par le politique, ça tend à valider plutôt la thèse du Machiavel machiavélique, celui du prince qui agit toujours derrière un masque, qui est nécessairement malfaisant, ce que tente à valider l'hypothèse House of Cards. Et là, peut-être qu'il aurait fallu réarticuler le début du livre avec la fin sur cette série, pour voir ce qu'on pouvait tirer peut-être plus franchement en termes de morale politique de ce qu'il est possible de faire et comment réinvestir l'action.
Un retour à West Wing, la maison série sur la Maison Blanche qui, elle, portait une vision beaucoup plus, on va dire, réjouissante, positive, de la politique. Voilà, mais c'était les années 90, que voulez-vous, Thibaut Sardi. Laurent Hêtre, le livre de Vincent Martini commence par une déclaration d'amour à la politique. Il dit, voilà, moi, la politique, j'ai toujours aimé ça. Or, c'est vrai que c'est très subversif aujourd'hui. On a l'impression qu'on ne peut plus aimer la politique. Est-ce que ce livre vous paraît de nature à pouvoir nous réconcilier un petit peu avec véritablement, voilà, cette pratique, cet objet qu'est la politique, qui aujourd'hui, il faut bien le dire, n'a plus vraiment une odeur de sainteté, si vous me passez l'expression?
Moi, il me semble en fait que cet ouvrage, surtout, éclaire la contradiction entre, d'un côté, un désaveu par rapport aux politiques, par rapport à la politique telle qu'elle est décrite, hein, politique politicienne, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une baisse d'intérêt pour la chose publique, pour la chose politique. Donc, effectivement, tout est permis de ce point de vue-là. Mais encore une fois, pour revenir effectivement sur la fin de l'ouvrage, Vincent Martini ne va pas très loin dans les propositions parce qu'en fait il s'en tient, il s'en explique à une vision de la démocratie comme régime de conflictualité. Alors il s'appuie sur Paul Ricoeur pour accréditer cette vision. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça rejoint aussi un peu la vision de Chantal Mouffe, qui est la grande théoricienne du populisme de gauche, avec sa théorie de la démocratie agonistique, où effectivement elle congédie un peu les stratégies politique massive au profit d'un investissement par les citoyens à court terme finalement de la vie publique et ça effectivement c'est un point qui interpelle et l'inconvénient de cette démarche effectivement qui a aussi sa pertinence mais l'inconvénient de cette démarche c'est quand même qu'elle déresponsabilise beaucoup les politiques par rapport à leur responsabilité de proposer des projets de société et des stratégies et je pense que du coup elle participe aussi du désaveu par rapport à une certaine classe politique que vous évoquiez.
Oui, il y a un contexte aussi, Thibaut Sardier, on terminera là-dessus si vous le voulez bien, qui a un contexte politique d'évolution presque institutionnelle. Il cite Vincent Martini dans ce livre Le Retour du Prince, cite Nicolas Rousselier, la force de gouverner sur le rôle de plus en plus important dévolu à l'exécutif. Et c'est vrai que c'est des mécanismes qui sont pas évidents d'abord à cerner, Vincent Martini s'y envoie, ils sont encore moins évidents à déconstruire, à détricoter pour en sortir.
Surtout qu'ils s'inscrivent dans une histoire longue, puisque la référence au prince, elle renvoie aussi au régime monarchique et de cet étonnement aussi au départ que finalement la révolution française et les révolutions du 19e siècle est finalement menée à pas grand chose puisqu'on revient à cette figure-là. Il évoque aussi la question de la 5e République, de la construction de ce régime à l'exécutif fort qui d'une certaine façon prépare le terrain. Et puis dernière chose qui est un petit peu hors des institutions, en tout cas du point de vue constitutionnel et légal, quand il parle aussi du vide autour du prince, il met en cause les partis. On pourrait dire aussi, si on élargit le champ, on pourrait ajouter toutes les corps intermédiaires, les syndicats, toutes ces instances qui servaient à mobiliser, à faire le lien entre les représentants, les dirigeants et la base, finalement, disparaissent.
Vincent Martini, Le Retour du Prince, c'est aux éditions Flammarion.
France Culture, Avis Critique,
Raphaël Bourbois.
Lucky, lucky, you should really get to know me. Lucky, lucky, you should really get to know me. Yeah, I know you got some things that you could show me. Low-key, low-key, you should really get to know me. I see you looking at my body very closely. But there's a lot of things about me that you don't see. You know we can take it faster, take it slowly. We could fly out to Ibiza and get cozy. All your friends are looking for you, they don't know where you're at. Cause you left with me and slipped out the back. Low-key, low-key, you should really get to know me. Low-key, low-key, you should really get to know me. Yeah, I know you got some things that you could show me. Low-key, low-key, you should really get to know me. Let's forget about our phones until the morning. We can post up, no one gets to see a story.
Deuxième temps de l'émission, je vous propose maintenant de nous intéresser au manifeste des espèces compagnes, chiens, humains et autres partenaires, publié aux éditions Climat. Son auteur, Donna Haraway, est une philosophe et biologiste américaine, professeure émérite au département des sciences humaines de l'Université de Californie Santa Cruz. C'est une figure majeure du féminisme, pionnière de la déconstruction des divisions catégorielles, à commencer par la construction du genre, marxiste, passeuse de la French Theory aux États-Unis. Elle a signé un livre culte sorti en 1985, un manifeste cyborg qui tentait de formuler une interprétation féministe des implosions de la vie contemporaine sous l'effet des technosciences. Le manifeste qui nous occupe ce soir est une actualisation de cette démarche théorique. Il était sorti originellement en 2003 et avait déjà été publié en 2010 aux éditions L'Éclat en France. Donc il ressort dans une nouvelle traduction de Jérôme Hansen avec une préface de la philosophe belge Vinciane Després. On y retrouve le goût de Donna Haraway pour la provocation et les affirmations qui peuvent sembler fantaisistes du genre « je considère l'écriture canine comme une branche de la théorie féministe » ou inversement. Ce concept d'espèce compagne exploré à travers des histoires qui prennent au sérieux notre relation avec les chiens se révèle un outil assez puissant pour penser une éthique et une politique dévolue à la prolifération des relations avec des êtres autres qui comptent, c'est ce que dit Donna Haraway. Au final, les enjeux abordés d'amour, de pouvoir, de conflits raciaux et d'idéologie coloniale émergent en dehors de tout anthropocentrisme. Je ne sais pas si les auditeurs Thibaut Sardi ont vraiment bien compris de quoi il s'agissait dans ce manifeste des espèces compagnes. J'ai fait de mon mieux. On a 20 minutes tous les trois pour essayer de comprendre.
Et pour cause, hein, c'est un livre assez déroutant, surtout pour qui, comme moi, il faut le dire, ne connaît pas particulièrement le monde des chiens, ne sait pas faire la différence entre un border collie, un berger australien ou un sato de Porto Rico, qui sont trois des espèces qu'elle explore ou dont elle retrace l'histoire.
Ça nuit pas énormément à la compréhension du livre. Quand
ça
même.
Nuit pas, non. Mais néanmoins, là où il y a quelque chose d'un peu mystérieux et qui nécessite pour le coup de faire un vrai effort pour comprendre ce livre qui par ailleurs, je vais y venir, est assez stimulant, c'est que c'est le rapport très fort qui unit Donna Haraway à ses propres espèces compagnes, les chiens qui sont vraiment les siens, avec qui elle nourrit des rapports très forts. D'ailleurs, elle en joue, elle en surjoue, puisqu'elle évoque des rapports oraux avec ses chiens. Donc on imagine un baiser entre elle et son toutou dans son canapé chez elle.
Il n'y a pas besoin d'imaginer, il y a des photos.
Il y a les photos, c'est vrai. Elle évoque une exubérante cyberculture cynophile où elle va chercher un grand nombre de sources, et en fait elle nous convie, dit-elle, au chenil. La figure revient souvent, il faut s'imaginer dans une niche, dans un chenil pour comprendre ce livre qui est déroutant aussi, parce que vous le disiez, Donna Haraway se rattache plutôt à la question du genre, du féminisme, du cyberféminisme à travers son manifeste cyborg, et on se demande finalement comment on va retrouver cette question à travers l'histoire de relations entre un humain et un chien, entre des humains et
des chiens et son humain, parce que c'est aussi dans les deux sens que ça marche.
Et c'est dans les deux sens, justement, car finalement, je crois qu'il faut vraiment partir de quelques éléments de vocabulaire de base, ce qu'elle travaille, sur lesquels elle revient vraiment, pour comprendre comment ce cas de figure de la relation humain-chien est beaucoup plus large, en fait, et interroge l'ensemble des rapports sociaux. Ce qui l'intéresse d'abord, c'est la question de la relation comme la plus petite unité d'analyse possible entre du coup des individus situés, en l'occurrence elle, son chien, dans lesquels les sujets s'investissent et à partir desquels du coup des réflexions plus globales sur l'ordre du monde, les structures sociales, techniques, le biopouvoir, la technoculture, pour reprendre son vocabulaire qui nous entoure, fonctionnent. Donc pour elle, et je vais en terminer, il faut comprendre que les espèces compagnes, ce qui donne le titre au manifeste, elle les définit comme un bestiaire de capacité d'agir, de forme de mise en relation et de faisceau de temps, défiant jusqu'à l'imagination du plus baroque des cosmologues. C'est-à-dire que chaque relation individuelle située dans le temps renvoie à une histoire, à des relations de pouvoir beaucoup plus larges, et que donc investir une relation individuelle permet finalement de questionner l'ensemble des structures contemporaines et du coup peut-être de les transformer. Et c'est là que le manifeste devient intéressant.
La boucle est bouclée, Thibaut Sardier. Merci. Il faut dire ici que les espèces compagnes, c'est pas seulement évidemment les animaux de compagnie, justement, sinon elle n'utiliserait que ce terme-là, mais c'est aussi le riz, les abeilles, la flore intestinale, les tulipes, bref, toutes ces espèces avec lesquelles on a eu des interactions au cours de l'histoire, qu'on pense avoir construites. En tout cas, le mythe anthropocentrique pense que l'homme est à l'origine de tout ça, et ce que veut démontrer Donna Haraway, qui est biologiste, hein, rappelons-le, et c'est important dans sa démonstration, c'est qu'il y a des échanges permanents et qu'on est autant construit par ces espèces que nous les avons construites, Laurent Hêtre.
Oui, mais alors, vous l'avez dit, le riz, les abeilles, les tulipes, la flore intestinale, ça fait beaucoup de monde quand même. Hein, et je poursuis sa citation. Elle dit « Les espèces compagnes, c'est tout autre être organique auquel l'existence humaine doit être ce qu'elle est et réciproquement. » Donc, à ce niveau de généralité, moi pour moi, c'est ça le premier problème de la démarche. On se demande ce qu'apporte de spécifique cette notion d'espèce compagne, parce qu'on a l'impression finalement que la notion recouvre l'ensemble du vivant. Donc, pour moi, c'est ça le premier souci. Ensuite, sur la question, c'est l'idée générale du livre, hein, sur ce qu'elle dit sur l'éthique de la relation et même la politique de la relation, qu'elle essaie donc de fonder sur ce rapport au chien, sur son rapport au chien. Elle nous invite à prendre ce rapport au sérieux. Et donc, elle donne tout un tas d'exemples d'histoires de dressage et d'expériences personnelles qu'elle a vécues avec ses chiens dans la pratique d'un sport, hein, l'agility, qui consiste donc en parcours d'obstacles réalisé en binôme maître-chien. Donc, elle pratique ce sport. Mais simplement, on a quand même l'impression qu'elle enfonce un peu des portes ouvertes, quoi. C'est-à-dire que nous parler de la danse conjointe des êtres, mettre en valeur toute cette harmonie du maître et de son chien, effectivement, on voit bien à quoi elle fait référence. Mais on pourrait tout à fait voir la même chose chez un cavalier avec son cheval. Et si vous voulez, ce qui m'interpelle, c'est que je ne vois pas très bien quelle est finalement la plus-value qu'apporte ce détour par les chiens pour penser l'altérité, parce que c'est ça le but de sa démarche, hein, c'est de penser l'altérité. Quelle plus-value ça apporte de le faire par le biais des chiens par rapport à une approche sur l'altérité qui resterait centrée sur les rapports seulement interhumains? Pour moi, c'est ça un peu le point aveugle de l'ouvrage, quoi. Elle le dit à la fin de son livre, elle dit « Les gens comme moi sont liés par leurs chiens au droit de souveraineté des peuples indigènes, à la survie économique et écologique de l'élevage en ranch, aux réformes radicales du complexe industriel de la viande, à la justice raciale, aux conséquences des guerres et des migrations. » Alors pourquoi pas, mais on se demande là encore si elle est liée à tous ces sujets de grande importance uniquement par le biais de ses chiens. On a l'impression que effectivement, pour Donna Haraway, pour communiquer sur ces questions sociales, économiques, politiques, culturelles, il faut en passer par le rapport aux chiens et plus globalement aux espèces compagnes. Ça interpelle quand même.
Disons que c'est une façon pour Donna Haraway de penser ces objets que vous venez de citer, voilà, l'exploitation agricole, la question de la colonisation, avec une volonté de rompre avec l'exceptionnalisme humain. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le présente, d'en faire une question politique. Et donc, en effet, avoir un chien, l'aimer, même si le terme d'amour est décortiqué et questionné, ça ne doit pas empêcher de penser que les chiens ont été un outil dans la conquête, par exemple, de l'Amérique, et donc aussi dans la réduction des peuples indigènes sur place.
Tout à fait. Et ça, effectivement, elle le fait très bien. C'est plutôt dans la dernière partie de l'ouvrage. Elle évoque toute une histoire, hein, l'histoire de la ruée vers l'or, de la conquête de l'Ouest américain, en intégrant effectivement le rôle qui a été dévolu par les hommes au cours de ces événements aux chiens. Effectivement, ça c'est intéressant, mais on sent, si vous voulez, qu'elle veut toujours aller un peu plus loin. C'est quand même très ambigu. Elle cherche à rendre équivalent le point de vue humain sur l'histoire et ce qui serait finalement une sorte de point de vue animal sur ces histoires. Et elle parle d'ailleurs d'intersubjectivité dans l'éducation canine. C'est quand même quelque chose qui interpelle. Ou alors quand elle évoque l'adoption des chiens aux États-Unis, elle parle de l'inscription du chien dans la famille humaine, en expliquant que là, l'espèce ne rentre plus du tout en compte et que le chien devient un membre à part entière de la famille et qu'il s'inscrit dans une parenté. Et là, je la cite, elle écrit « Sorti du ventre du monstre de l'héritage historique, cette famille, donc chien et humain, doit apprendre à en investir les histoires afin de les transformer. » Mais enfin, quand même, laisser entendre que le chien et l'homme hériteraient au même titre de l'histoire, qu'ils en seraient également tous deux dépositaires, moi je trouve ça quand même surprenant.
Thibaut Sardier.
Alors, pourquoi le chien? On l'a peut-être déjà un petit peu dit, mais je pense que déjà, ça se rapporte aussi au genre de l'essai, du manifeste. Hein. Elle, pour le coup, il y a vraiment un parti pris dont elle exprime aussi les limites. Hein. Elle, justement, le genre ici de l'essai, à partir d'un cas précis, nous propose de réfléchir. Et en plus, en nous proposant de faire un travail, parce que tout n'est pas forcément évident, donc il y a vraiment un travail de lecteur à faire pour justement transposer la situation à d'autres cas, qui donc du coup, voilà, à mon avis, est une question de style, de genre, et qui remplit parfaitement la question de l'essai, de la thèse, et donc d'un apport à une réflexion théorique. Après, il faut voir aussi que cette question posée par Donna Haraway s'inscrit dans une temporalité qu'elle décline en trois échelles, en trois temps, et qui peut permettre aussi de mieux comprendre sans doute cette idée de coévolution, de relation entre des humains et des non-humains. Par niveau de grandeur, d'abord, donc je le disais tout à l'heure, l'échelle de la vie des individus, cette relation qui peut se nouer entre quelques êtres, entre deux êtres à l'échelle d'une vie. De l'autre côté du spectre, le temps évolutif, dit-elle, à l'échelle de la Terre. Donc là, on est plutôt dans l'ordre de l'évolution biologique, génétique, et entre les deux, donc ce temps de l'histoire, donc qui charrie tout un héritage sur des décennies ou des siècles. Et finalement, la question de la relation homme-chien ici, elle se justifie dans la mesure où finalement c'est le chien est l'un des cas les plus documentés des difficultés historiques du fait que c'est l'une des espèces qui a sur le temps long été le plus associée à ce qu'on disait tout à l'heure, la ruée vers l'ouest, la colonisation. Et que ça permet du coup d'investir vraiment la réflexion sur la façon de nouer ces relations. Et puis, pour le coup, pas forcément de donner au chien une responsabilité dans la colonisation, mais à l'inverse, de réfléchir comment un rapport de domination qui n'était peut-être pas légitime, en l'occurrence de l'humain sur le chien, a amené ces derniers à se rendre complices malgré eux, disons.
C'est aussi une façon pour Donna Haraway, Laurent Hed, d'interroger la notion d'espèce. Et c'est pas anodin pour une biologiste, je rappelle. Donna Haraway, donc, qui signe ce manifeste des espèces compagne publié chez Climat, est philosophe, bien sûr, mais elle est aussi biologiste de formation. Et il y a cette entreprise de déconstruire, encore une fois, puisque c'est un peu tout ça, son objectif théorique, de déconstruire cette notion d'espèce en la faisant exploser littéralement.
Oui, mais enfin, là, on parle du chien qui serait complice de la colonisation. Mais enfin, voilà, effectivement, elle appréhende le chien comme un sujet moral à part entière. Mais enfin, ça, c'est quand même tombé en plein dans l'anthropomorphisme qu'elle critique par ailleurs. Mais on tombe quand même sur des passages où elle évoque, par le biais de la discussion de théories portées par des dresseuses professionnelles, hein, Vicky Hearn notamment, qui parlent des chiens comme étant en mesure de revendiquer des droits face aux humains. Mais enfin, en général, les droits vont de pair avec les devoirs, et on se trouve bien en peine pour réclamer aux chiens des devoirs ou leur prêter des devoirs à notre égard. Voilà, si vous voulez, c'est tout ça est quand même, je trouve, très confus. Et sur la question de la place des chiens dans l'histoire, encore une fois, effectivement, ça c'est un point de vue intéressant de montrer comment les logiques d'exploitation interhumaine, les logiques de domination interhumaine sont allées aussi de pair avec des logiques de domination sur les animaux. Ça, cet aspect, effectivement, c'est intéressant. Mais on a l'impression que Donna Haraway considère que le chien raconte lui-même l'histoire. Or, le chien ne raconte rien. Il est juste raconté par l'homme, et c'est ce qu'elle fait dans cet ouvrage. Et ces passages, effectivement, qu'on évoquait tout à l'heure sur la conquête de l'Ouest, etc., sont effectivement les passages intéressants du livre. Mais pour le reste, sur ce qui est de l'éthique de la relation, oui, une relation authentique suppose une égalité entre partenaires, suppose une écoute mutuelle, une attention au désir de l'autre. Mais est-ce qu'on a besoin de passer par le chenil pour prendre conscience de cette réalité? On peut sans doute passer par le chenil, mais pourquoi se restreindre à cet axe-là? Moi, j'ai quand même une hypothèse. Je me demande si toute cette promenade avec les chiens ne vise pas quand même à s'échapper, à déserter le face-à-face avec l'autre humain. Et je me demande dans quelle mesure cette relativisation des capacités de symbolisation et d'abstraction de l'être humain, de l'homme, je me demande dans quelle mesure cette relativisation ne risque pas d'accompagner malheureusement des logiques de violence violence qui parcourt le genre humain aujourd'hui.
C'est une question qu'il faudrait poser évidemment à Donna Haraway, qui se situe dans cette théorie queer, hein, qui habite le trouble, l'entre-deux, la relation, on l'a dit à plusieurs reprises, Thibaut Sardier. Et il y a un terme qui revient beaucoup, et je crois qu'il conclut même le livre de Donna Haraway, c'est celui de métaplasme, qui est un terme qui est emprunté à la biologie encore une fois, c'est-à-dire la façon par laquelle le corps humain est remodelé par le chien est modelé par l'humain, et il y a une forme de refonte des codes du vivant au cours de cette histoire d'une relation compagne.
Alors, je crois que le meilleur moyen peut-être de répondre à l'interrogation ou à l'objection de Laurent, c'est peut-être de revenir à cette histoire d'échelle et effectivement à la situation du dressage où elle le dit effectivement quand on est dans la relation entre un éleveur, une éleveuse et son chien ou dresseuse plutôt, c'est le terme qu'elle emploie, se négocie finalement et s'attribue des droits réciproques. C'est-à-dire que la relation fait que certes l'humain donne des droits au chien, à l'animal, mais réciproquement l'animal par son attitude consent lui aussi à laisser l'humain faire telle ou telle chose. Cette réflexion, elle l'amène à cette échelle-là de l'individu, mais elle invite aussi, à mon avis, en creux, à la transposer. À partir du moment où on négocie comme ça l'accord de droit réciproque dans une relation individuelle, alors, dès lors, on peut y réfléchir à l'échelle collective et sociétale, quelles interactions collectivement voulons-nous avec d'autres objets sociaux. Sur la relation avec les autres humains, pour le coup, objection retenue. Effectivement, c'est, je pense, l'une des zones d'ombre en se focalisant tellement sur l'animal. Effectivement, qu'en est-il de la façon dont on investit les relations? Elle prétend, sans le dire, que cette question de la façon dont on investit la relation avec l'autre, bah, pourrait valoir aussi avec d'autres humains. Ça souffre quand même effectivement un certain nombre d'objections. En revanche, ça permet d'investir un champ qu'on reliait moins jusqu'ici à Donna Haraway, qui est le champ de l'écologie. À l'heure où on s'interroge sur la façon, s'il est bon d'ailleurs de donner des droits à des rivières, à des forêts, on réfléchit aussi à l'évolution du droit des animaux. Là, elle nous invite à penser justement notre relation avec le riz, la flore intestinale et les plantes, les arbres, au travers de cette question des droits réciproques, et donc à réfléchir la place de l'homme dans le monde à l'aune du fait que nous faisons système avec l'ensemble du vivant. Et cette question, pour le coup, elle est reprise alors par Glenn Albrecht, un philosophe australien qui cite Donna Haraway. On retrouve un petit peu en creux de Descola sur la séparation entre nature et culture. Elle-même parle d'ailleurs de nature-culture en un mot, pour montrer que cette séparation n'est pas du tout hermétique.
Laurent.
Oui, mais justement, alors effectivement, c'est une philosophe du trouble, hein, une philosophe qui joue avec les frontières entre les concepts, mais elle est finalement hantée par une volonté de dépassement de toute forme de dualisme, hein. Alors nature-culture, voilà, effectivement, elle veut dépasser cette opposition nature-culture au prétexte qu'il y aurait une influence, une circulation entre les deux pôles. Simplement, ça conduit encore une fois à relativiser les capacités de l'être humain à symboliser, à mettre du sens dans l'histoire. Ça relativise notre rapport au temps et ça, pour moi, ça pose quand même souci. Et pour reprendre un peu, c'était Jean-François Bronstein, philosophe qui a sorti à l'automne dernier un livre consacré pas seulement mais notamment à Donna Haraway, La philosophie devenue folle, chez Grasset, et au fond il montre que toute une partie de la philosophie, alors Haraway mais aussi Judith Butler ou Peter Singer, hein, le pape de l'antispécisme, toute une partie de la pensée aujourd'hui considère finalement que toute forme de dualisme serait porteur d'oppression, et ça effectivement c'est quand même quelque chose d'assez étrange.
On l'a dit, la préface du livre est signée de la philosophe belge Vinciane Després, qui parle d'un livre scandaleusement révolutionnaire tant dans le champ académique que dans celui des théories féministes. Et justement, Vinciane Després fait ce lien avec l'écologie, la défense animale. Thibaut Sardier, un mot peut-être sur ce que vient de dire Laurent Hêtre ?
Oui, c'est-à-dire que moi, j'entends bien que cette question du dualisme, elle garde un sens, que nature et culture ne sont pas évidemment les mêmes questions. Néanmoins, si on situe un peu historiquement, on va dire, cette pensée dans les grands champs de la philosophie, la pensée nature-culture a été tellement déterminante dans son monolithisme qu'elle fait partie de ces philosophes ou de ces penseurs qui nous invitent finalement à la nuancer et à voir que dans cette relation où tout ce qui serait naturel se rapporterait à l'animal, au chien, et tout ce qui serait culturel en termes d'évolution se rapporterait à l'humain, c'est plus compliqué que ça, et qu'il faut penser ces nuances. effectivement, ça amène à nuancer sa thèse, et je ne suis pas certain qu'elle dirait la même chose que moi, mais en tout cas, l'apport de cet essai, je trouve, c'est justement de dire comment est-ce qu'on peut nuancer cette pensée monolithique dans laquelle on réfléchit beaucoup et peut-être beaucoup trop.
Non, mais ça, effectivement, nuancer, mais pour le coup, elle est justement pas du tout dans la nuance, quoi. Hein.
Eh bien, pour s'en rendre compte, il suffit de lire ce manifeste des espèces compagnes de Donna Haraway, préfacé donc, comme je l'ai dit, par Vinciane Després, 7 aux éditions Climat.
L'instant critique.
L'instant critique, Thibaut Sardier, Laurent Hêtre, vous êtes venu avec des conseils pour nos auditeurs, pour animer leur week-end peut-être, Thibaut Sardier.
Oui, alors désolé, je vais être un petit peu parisien puisque c'est une exposition au Centre Pompidou à Paris, donc je voudrais vous recommander. Donc elle a ouvert le 8 mai jusqu'au 16 septembre et elle s'appelle Préhistoire, une énigme moderne. Déjà, je la recommande parce que un certain nombre de lectures récentes font que, il y a en ce moment tout un champ interrogation sur la façon dont la préhistoire, le paléolithique, le néolithique, ce moment où s'invente l'agriculture, quelles conséquences pour aujourd'hui du point de vue écologique, est-ce que le néolithique n'est pas l'aube de la crise écologique, voilà, il y a tout un champ de réflexion qui émerge en ce moment.
Jean-Paul Demoule, James C. Scott.
Exactement, James Scott qui justement sera présent dans le cadre des conférences organisées par le musée le lundi 27 mai, donc c'est une date à noter pour l'entendre parler de ces questions-là.
En discussion avec Anat Singh, dont on avait parlé du livre Le champignon de la fin du monde, c'est vrai que c'est une rencontre qui est assez attendue pour les auditeurs qui peuvent être à Paris lundi 29.
Il faut y aller, je pense, ça vaut le coup de voir cet échange. Et alors, du point de vue de l'exposition, ce qui est vraiment très intéressant, c'est cette mise en correspondance du début à la fin, de la façon dont la production artistique préhistorique, l'art pariétal, les grottes, les pierres taillées, même d'ailleurs pas que les éléments artistiques, puisqu'il est aussi question d'outils, de pierres polies, de bifaces, et j'en passe, je ne suis pas spécialiste, comment tous ces éléments résonnent avec l'art contemporain dès le 19e siècle, à un moment justement où l'archéologie se structure, où la notion de préhistoire s'invente et où les artistes, hein, de Paul Cézanne à Picasso, regardent ce qui se passe, suivent les découvertes de l'archéologie et s'approprient ces questions-là dans leur travail. Alors, trois petits zooms rapides. Paul Cézanne, d'abord, quand il peint la Sainte Victoire, on apprend dans l'exposition qu'en fait, il se balade autour de la Sainte Victoire avec l'archéologue Antoine Fortuné Marion. Il y a de magnifiques carnets où tous les deux écrivent, partagent des notions, et donc on retrouve ces éléments dans ces peintures de la Sainte Victoire et des carrières de Bibémus à deux pas. La Vénus de Lespugue, 23 000 ans avant notre ère, donc qui est une petite statuette féminine aux formes disproportionnées, ou en tout cas très très arrondies, très importantes, qu'on retrouve dans les tableaux, les statues de Picasso, qu'on retrouve chez Yves Klein. Tout ça est magnifiquement mis en correspondance. Dernière chose plus symbolique, Miro, qui dans ses femmes entourées par un vol d'oiseaux, où on voit des triangles imbriqués, des triangles noirs imbriqués qui représentent le féminin, sont des figures triangulaires qu'on retrouve dans les grottes. Donc voilà, des correspondances en permanence à un moment où se structure un champ de la pensée, c'est vraiment passionnant.
Donc l'exposition est au Centre Pompidou à Paris, et vous n'êtes pas le seul à être fasciné, passionné par la préhistoire, puisque sans se concerter, évidemment, Laurent Hêtre aussi veut nous conseiller quelque chose qui tourne autour de cette période.
Coordonnées, effectivement. Alors moi, je vais vous parler du documentaire d'Arte qui accompagne justement cette exposition, qui est donc visionnable sur Arte jusqu'au 25 mai. Alors effectivement, c'est sur les multiples influences de l'art paléolithique sur l'art moderne. Thibaut a évoqué effectivement la Vénus de Lespugue, hein, qui a beaucoup fasciné Picasso. Il est question aussi du photographe Brassailles, hein, qui dans les années 30 traque sur les murs de Paris avec son objectif les graffitis qui lui évoquent les peintures rupestre. Ces influences, elles se font sentir, Thibault l'a dit aussi, dans la peinture de Miro, hein, par son goût pour les empreintes, mais aussi également aujourd'hui dans certaines fresques du street art. Ça, c'est un aspect aussi qui est intéressant dans cette expo et dans ce documentaire. En tout cas, le documentaire d'Arte nous rappelle bien le choc qui a été celui du monde de l'art lors de la découverte de la grotte de Lascaux en 1940, et plus près de nous en 94 avec la découverte de la grotte de Chauvet. Et les deux commissaires de l'exposition, Cécile Debray et Rémi Labrusse, insistent bien sur le besoin de réenchanter le présent en se tournant vers ce retour à l'origine. Hein. C'était déjà le cas au XXe siècle, après les horreurs des deux guerres mondiales, effectivement, c'est ça qui a beaucoup inspiré les artistes. Il y avait un besoin comme ça de se régénérer. Et surtout, ça nous invite à nous départir de certaines visions primitivistes sur l'homme des cavernes et à considérer à sa juste valeur l'esthétique de la préhistoire qui a un vrai sens du mouvement, un vrai sens de la profondeur de champ et du relief. Et ça interroge, au final, la notion de progrès en art dont il faudrait peut-être aujourd'hui se départir.
Évidemment, merci beaucoup Laura et Thibaut Sardier. Une exposition, un film documentaire à voir sur Arte ou Arte Plus 7 sur la préhistoire. Dépêchez-vous. Et comme ça, au moins, on n'est pas parisien, Thibaut Sardier. Avis critique, c'est terminé. Attaché d'émission, Catherine Donnet. À la réalisation aujourd'hui, Vanessa Nadjar. À la prise de son, Eric Boisset. Vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger, vous abonner au podcast sur franceculture.fr. Dans quelques instants, Jukebox.